C'est pas avec 50 000 personnes qu'on va faire bouger les choses. Non, je crois pas. On n'est pas dans la même logique de la révolution orange. Il n'y a pas de leader en face qui puisse justement mobiliser sur son nom. Mais d'ailleurs, il y avait des oligarques autour de Yanukovych qui étaient pour l'adhésion à l'Europe. Les oligarques ukrainiens ont bien conscience qu'il faut mieux faire affaire avec les Européens qu'avec la Russie, parce qu'ils vont se faire avaler, quoi. Ils vont se faire imposer des conditions. Enfin, c'est beaucoup plus dur pour l'Ukraine de faire commerce avec la Russie, sur le long terme, hein, que d'adhérer à l'Europe. Et les Ukrainiens eux-mêmes le savent, puisqu'ils voient bien que leur avenir avec les visas, etc., ça serait plutôt à l'Ouest, hein, mais les hommes d'affaires et ceux qui sont proches du pouvoir sont dans la même logique. Mais c'est un calcul de court terme. L'Ukraine aux abois sur un plan financier, aussi avec d'énormes problèmes énergétiques, l'argent qu'elle doit et le prix qu'elle paye du gaz qu'elle achète à Gazprom, l'Ukraine ne pouvait pas refuser les largesses financières que lui promette la Russie.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi le résultat d'un rapprochement depuis 2010 et son élection de Yanukovych avec la Russie ?
Non, il est faux de dire que le président Yanukovych est un pro-russe. Le président Yanukovych est pro-ukrainien. Il a bien conscience qu'il faut mieux traiter avec les Européens, qu'il faut mieux appartenir à un espace juridique où le droit signifie quelque chose, plutôt que de faire commerce avec la Russie où le droit n'a pas la même force. Le président Yanukovych est bien conscient que l'Ukraine existe en elle-même et il n'est pas question de soumettre l'Ukraine à la Russie. Là, en l'occurrence, c'est la décision qu'il a prise. Mais c'est une décision de court terme. Alors ensuite, qui est alimentée aussi, sans doute, par l'effroi que procure Yulia Tymoshenko au président Yanukovych. Il semblerait qu'il craigne, mais terriblement, la participation de cette femme aux prochaines élections.
L'Ukraine, en tout cas, est asphyxiée. Elle a décidé de s'éloigner de Bruxelles. Mais prenons le problème autrement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Russie accepte si mal un rapprochement de Kiev et Bruxelles ?
C'est que pour eux, dans la politique étrangère russe, tout est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ce que l'on perd, l'autre a gagné. Donc la pression pour la Russie, c'est que si on perd l'Ukraine pour l'Union justement eurasiatique, ça veut dire que l'Europe se renforce contre la Russie. Donc pour la Russie, c'est un enjeu beaucoup plus important que pour l'Europe.
Pour la Russie, il s'agit donc de préserver son influence sur la scène mondiale. Mais qu'est-ce que représente l'Ukraine pour Moscou ?
L'Ukraine en russe, ça veut dire aux marges de, à la limite. C'est un peu comme si c'était les marges de l'Empire russe ou de la Grande Russie. Le Kiev russe, c'est aussi le berceau du peuple russe, de cet État russe qui naît, qui ensuite se déplace vers l'Est. Historiquement et symboliquement, l'Ukraine signifie beaucoup pour la Russie. Donc ça participe de la puissance russe, hein, avoir des alliés proches, voilà, comme la Biélorussie, l'Arménie, certains pays d'Asie centrale. Mais l'Ukraine en particulier a une dimension beaucoup plus symbolique et identitaire. C'est dur pour les Russes de considérer que le peuple ukrainien est un peuple à part entière, en fait.
Donc si on veut caricaturer un peu la situation en l'état, c'est on peut considérer, sans que le mot soit juste, que c'est une victoire de la Russie. Mais est-ce qu'on peut prendre un autre pendant de cette affaire, c'est-à-dire c'est quand même un coup dur aussi pour l'Europe qui avait œuvré pour un rapprochement avec Kiev. Pourquoi est-ce que l'Europe est intéressée par l'Ukraine ?
Parce que l'Ukraine, c'est important au niveau des transits énergétiques. Beaucoup de gaz que consomment les pays européens passent par l'Ukraine. Et c'est aussi pour éviter qu'il y ait de nouveau ces crises du gaz telles qu'on les a connues en 2006 et en 2009, où la Russie ferme le robinet. Donc il y avait cette dimension très pragmatique, très réelle politique. Bon, et puis parce que l'Union européenne se définit comme un modèle normatif. Si ce modèle normatif soudain cesse de devenir un modèle auquel d'autres États extérieurs puissent s'identifier et puissent vouloir rejoindre, hein, si ça cesse, l'Union européenne perd de sa pertinence. Donc ils étaient engagés dans ce mouvement de dire voilà, on est un modèle et par ce modèle, on va entraîner nos voisins qui ne sont pas membres vers un processus de réforme. Donc c'est le cas pour l'Azerbaïdjan, c'est le cas pour l'Ukraine, pour la Moldavie. C'est simplement un mouvement de survie au niveau du sens de la part de l'Union européenne.
Vous avez évoqué le cas Tymoshenko. Est-ce que l'Union européenne n'a quand même pas commis une bévue, entre guillemets, en insistant tant sur le fait que Yulia Tymoshenko devait pouvoir se faire soigner en Europe pour que cet accord d'association avec l'Union européenne soit signé ?
Ce n'est pas une défaite pour l'Europe. Au contraire, puisque l'Europe a tenu bon. Nous sommes un modèle normatif, nous avons des valeurs. Mais d'un autre côté, nous cherchons à faire adhérer à nos valeurs un certain nombre de partenaires. Mais cette adhésion ne doit pas, bien sûr, se faire contre nos valeurs. Donc il fallait pour l'Union européenne allier la critique de la justice sélective, qui est absolument non démocratique, et dont Tymoshenko est l'incarnation même, et en même temps, de l'autre côté, négocier avec l'Ukraine pour justement l'attacher économiquement à la zone européenne. Et donc cette double avancée diplomatique, progresser sur deux fronts, requérait quand même une certaine subtilité de l'approche. Et l'Union européenne a tenu bon.
Et dès lors, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'a pas aidé l'Ukraine à faire face à ses obligations vis-à-vis de Moscou ?
C'est ce qui était prévu. Je crois qu'il y avait des prêts qui auraient dû venir du FMI avec des garanties européennes. Enfin, je ne sais pas exactement le détail de ces montages financiers, mais il y avait dans la balance ça. Hein. Oui, il y avait effectivement une dette financière. Mais l'aide financière promise par les Russes est sans doute plus importante. Et puis les Russes ne demandent pas qu'on libère Timoshenko.
En tout cas, on voit la difficulté pour l'Ukraine de se faire sa propre identité en dehors des cercles d'influence à la fois européens et russes.
Le fondement de la nouvelle identité ukrainienne, c'est d'être ce pont, d'être cette passerelle, d'être cette zone tampon, d'être cette transition entre l'Occident et entre la Russie. Donc, pour eux, ils se vivent comme ça, ils se sentent comme ça. Mais c'est un peu difficile quand même de fonder une identité sur justement un pont ou sur une zone de transition. Les quelques manifestations là qui ont lieu, ce n'est pas pour dire il faut par exemple séparer l'Ouest de l'Ukraine qui aille rejoindre l'Europe. Il y a, je pense, une certaine unité en Ukraine sur justement ce que veut dire ce pays. On n'est pas dans des logiques de scission où les uns voudraient rejoindre l'Europe et les autres voudraient rejoindre la Russie.
Donc on est en train d'assister à la difficulté pour une nation d'émerger en tant que telle de manière indépendante.
Bah oui, parce que c'est une nation qui n'a pas de base économique saine. C'est une économie qui est au bord de la banqueroute, notamment en raison de mauvaises gestions, etc. Mais donc ça veut bien dire aussi que la révolution orange a échoué en cela. C'est que la révolution orange a échoué à réformer les méthodes de gouvernement et la gouvernance économique du pays, au niveau de la corruption par exemple. Donc ça, c'est un échec de la révolution orange, c'est un échec de Yushchenko, de Timoshenko et bien sûr de Yanukovych. C'est pour ça que cette affaire est beaucoup plus symptomatique d'un échec de l'Ukraine en tant que telle et pas d'une partie contre l'autre. Hein. Et ce n'est ni un échec de l'Union européenne, ni vraiment une victoire de la Russie, remporter une victoire en menaçant directement le pays. Ce n'est pas comme ça que je conçois une victoire diplomatique, par exemple.